Vous écoutez
RMC. RMC. RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, comme tous les soirs bien sûr, l'after, vous le savez, continue 7 jours sur 7 pendant toute cette période sans football, de 22h à minuit sur RMC, avec vous tous, l'after, l'émission qui a dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Jérôme Brantel est là. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et elle est toujours avec nous bien sûr, comme tous les mardis, et toujours en radio-travail, Laure Le Payeur est là, bonsoir Laure.
Bonsoir à tous.
Salut Laure.
Tout à l'heure, Julien Cazard nous rejoindra à 23h40 pour le premier match de la LFA, la Ligue fermée de l'after, le match numéro 1 entre les London Wags, emmenés par Laure Le Payeur, et les German Wings, emmenés par Paulo Breitner.
Et toi ?
Et moi ?
Un petit match pour commencer. Bon, après, il ne faut pas commencer avec les grosses affiches.
On verra. Laure qui sera avec Julien Laurence, bien sûr.
Après, est-ce que, Daniel, est-ce que l'arbitre va avantager... comme ça a été le cas sur le...
On joue sur le terrain des German Wings ce soir. On joue à Stuttgart.
Ah bah déjà, il annonce la couleur.
Ah, mais au match retour, ça sera à
Londres. Et Laure, prépare-toi.
Ce soir, il y a le premier match.
Ouais, mais en plus, avec les deux encyclopédies du côté de l'Est, on est un petit peu mal. Hein.
Ouais.
Ce soir, on va immédiatement se rendre compte un petit peu du ton. Est-ce que l'arbitre a déjà choisi son camp ou pas tu vois, voilà.
Apollo fait peur à Julien, apparemment, parce qu'il peut le manger tout cru. Hein.
Ah bah ça c'est sûr, faut pas qu'il le cherche trop. L'événement ce soir dans l'after les gars, bien sûr, c'est la suite de notre dossier concernant les Girondins de Bordeaux. L'after va vous faire de nouvelles révélations ce soir. Supporters des Girondins, on vous attend au 32-16 pour réagir, débattre dans quelques secondes avec nous. Tout ça bien sûr sans oublier l'actu du jour. On parlera de Rabiot qui fait la grève tout à l'heure. Entre autres, on parlera de Serge Aurier qui parle à Daniel Riolo.
Ou du moins il lui parle... Il lui parle pas.
Non, il lui parle pas, justement.
Non, ouais. Je suis pas.
Mais bon, je vais pas te parler, mais il te parle.
J'ai des infos là-dessus, donc laissez-moi préparer tout.
Je suis pas digne de lui parler quand même, tu vois.
Et on parlera de José Anigo.
Chaque chose à sa place.
On parlera de José Anigo qui est revenu sur sa brouille avec Didier Deschamps en expliquant le pourquoi du comment. Ce sera tout à l'heure. Après 23h, bien sûr. Et puis, notre after story du soir, c'était une de vos suggestions sur le hashtag MonAfter. Vous savez que vous pouvez nous envoyer vos propositions de sujets. Paulo Breitner viendra donc nous raconter, après vos demandes, la folie du FC Hollywood au Bayern, les grandes années bling-bling du Bayern avec Paulo tout à l'heure, bien sûr, pour se remémorer tout ça ensemble. Voilà le programme. Donc le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio, sur nos applis, appli RMC, appli RMC Sport. On a eu des petits soucis d'appli hein, ces derniers jours. Vous nous avez envoyé beaucoup de messages, l'appli coupée, donc on est sur le coup. Hein. Ça devrait se rétablir.
L'appli coupée, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah oui, il y avait un problème de... Tu sais, à Paris, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du vandalisme sur des fibres, de la fibre.
Un sabotage.
Dans le Val-de-Marne, notamment. On a été indirectement impacté à cause de ça.
C'est le podcast?
Non, c'est pour les gens qui écoutent la radio sur les applis.
Ah,
de plus en plus de monde qui écoute sur l'appli. T'as une qualité de son optimale et tout, c'est bien. C'est top.
Laure nous appelle de l'appli. Elle nous avait expliqué au début du confinement comment elle faisait.
Laure, elle a sa petite appli spéciale.
Et je confirme qu'effectivement, il y a eu des petits problèmes ces derniers temps. J'avais du mal à tout capter.
Là, les gens écoutent réellement l'émission. Elle est en entier et tout.
T'as les gens qui écoutent sur la FM, avec ta radio dans ta voiture.
Avec le poste radio.
Il y a de plus en plus de monde, ils ont bien raison, qui écoutent sur les applis, parce que t'as une qualité d'écoute qui est optimal.
C'est normal.
Et là,
il y en a qui disent écouter l'émission.
Et donc, il y a eu des coupures, notamment hier soir, dans le temps de 23h.
Il y en a qui disent écouter l'émission par Twitter. Ils disent ah, si, mais j'écoute, mais avec Twitter. Attends, comment tu fais? Enfin, ils écoutent avec les petits bouts de phrases qui sont repris. Là-dessus, tu vois,
il
débriefe, tu vois.
Sur Twitter, tu cliques sur les messages et puis t'as les contenus. C'est ça, les nouvelles consommations, faut t'adapter, mon vieux.
Mais là, en fait, il ne pourrait jamais y avoir de cette consommation.
Les nouvelles techno?
Parce que le mec, les gens qui te parlent et puis qui en fait mélangent des phrases, ressortent des trucs et je suis atterré. Et le mec il dit si j'écoute. Voilà, il dit non, j'écoute pas, mais j'ai bien vu ce que t'as dit. Oulala, c'est toujours très très compliqué. Et c'est là où je peux passer une demi-heure à insulter un mec.
Ah oui, c'est toujours sans intelligence, hein.
Ouais, mais moi, je réponds à la bêtise par la bêtise. Mais j'ai pas de honte à ça.
C'est mieux de ne pas répondre à la bêtise.
Elle est où,
c'est la meilleure stratégie.
Gilbert, non,
parce que ça fait 15 ans que je l'explique.
Non, mais elle est où? Parce que moi, je crois toujours qu'on peut être capable d'étudier les gens. Ouais, bah, alors que toi, tu as renoncé.
C'est pas en les insultant que tu les éduques.
Elle est où cette période de Daniel Riolo qui, rappelle-toi, il faudrait nous le ressortir quand même, cette émission où il nous a fait un sketch en disant moi, Twitter, c'est fini. Fini. C'est fini, je vous le dis. J'ai fini.
Il a dit ça un soir, ouais. Ça a duré jusqu'au lendemain matin à 11h.
Non, mais sans déconner. C'est vrai, c'est vrai. Il nous a bouffé l'émission.
Je continue de le penser. Mais je crois
mais
toujours.
Mais tu veux pas, c'est plus fort que
toi. Non, je crois toujours qu'on est capable de. Je sais pas, même si c'est 1 sur 10 d'aller discuter, même si 9 fois ça va m'énerver, non, je vais insulter.
Tu arrives, on y arrive.
1 fois, ça peut. Tu vois, et mine de rien, des fois, je gratte quand même des trucs. Et je dois dire la vérité, il y a quand même des mecs absolument extraordinaires que j'ai pu croiser par ce biais. Ouais. Vraiment, des
Bordeaux.
Mecs qui valent le coup, quoi.
On y va. On a passé une heure à faire des révélations sur les Girondins de Bordeaux. On va continuer ce soir. Hier, on a parlé, vous l'avez compris, du système de recrutement. Ce soir, on va aborder d'autres dossiers. On va parler tout à l'heure de certains contrats de joueurs qui sont étonnants par les montants engagés. On va parler également tout à l'heure des anciens joueurs qui réagissent pas mal à ce qui se passe dans le club ces dernières
heures. Pas bon signe quand des anciens joueurs comme ça, comment ça se...
Il est temps que beaucoup d'anciens joueurs et tout, il faudrait que certains moins anciens que d'autres qui gravitent encore pas loin comme Chalmers, Planus qu'on n'entend pas et qui sont au courant et qui savent ce qui se passe, serait bien que sortent du bois un peu.
Du gars, Duga régulièrement, hein. Bon, tu me diras, il est plus ancien que Planus, mais
ouais. Non, mais Duga il a une voix parce que déjà il bosse dans un média important.
Et on va démarrer par le premier dossier, Daniel.
Mais qu'il continue, quoi, qui
est le dossier du centre de formation à Bordeaux.
Avec un préambule que je vais essayer de faire très rapide. Ah,
juste Daniel, moi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit hier.
Oui, Laure.
Et là, je vais parler vraiment en tant que femme, parce qu'il y a des choses parfois qui peuvent m'agacer. Donc j'ai écouté attentivement tout ce qui s'est raconté, toute l'histoire, et notamment du jeune agent qui a expliqué un petit peu le fonctionnement. Moi, je vais revenir sur ce fameux rôle de la Raquel, là.
Oui.
Et ça m'a, moi, en tant que femme, ça m'a particulièrement dérangée. J'explique juste mettre les choses un peu dans le contexte. Je trouve que on est dans une société actuellement où on parle beaucoup de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est un sujet qui revient régulièrement. Et dans cette volonté d'égalité, on met souvent la notion de compétence en avant. Mmh. Et hier, quand Daniel il a relaté un petit peu tout le parcours de cette Raquel, eh ben, ça va à l'encontre de tout ça. Et moi, ça me dérange particulièrement. Je trouve que pour elle, dans son cas en tout cas, on ne peut pas dire de parler de compétence parce que déjà, il n'y a aucun dossier qui ont abouti, d'après ce que j'ai pu entendre. Mmh. Je trouve que ce comportement, bah, il dit clairement aux autres femmes qui, elles, ont peut-être les connaissances du football et ont l'ambition d'exercer ce métier. Je trouve déjà qu'il est difficile pour une femme aussi de s'imposer dans ce milieu du football et que c'est avec ce genre de comportement bah, qu'on a aussi du mal à faire avancer les choses. Et
ah
voilà,
oui,
mais
ça alors,
peu...
je suis désolé.
Et
ben oui,
moi,
ça,
c'était juste mon
ça,
petit coup de gueule.
De ça, hein.
Tu vois,
ouais, non,
je suis d'accord
raison,
avec toi.
Raison.
Et c'était juste mon petit coup de gueule du soir parce que c'est vrai qu'on reprend souvent des fois les hommes parce qu'ils ont des propos et des attitudes inappropriées. Mais je trouve aussi qu'il faut reprendre les femmes quand il y a un comportement bah, qui nuit clairement aussi à la crédibilité des autres femmes.
Il y a très peu de femmes agents aujourd'hui, Laure. Hein. Il y a,
ouais,
il y a Sonia Sweet quoi, qui bosse pas mal. Mais
peut-être,
peu.
Mais, ouais, mais après, c'est ce que j'allais dire. Il y en a
raison.
Que...
Quand on entend ce genre de choses-là,
bah ouais, moi ça tu perds toute crédibilité, les ça donne pas l'envie. Ouais, voilà.
Bah oui, bien sûr.
Je trouve ça dommage que voilà, on parle pas de compétences. Cette personne qui ne connaît strictement rien au football qui arrive ici, je trouve ça dommage. Ça nuit à l'image et peut-être qu'une femme qui aurait l'ambition d'être agent, et ben ça nuit à sa crédibilité par la suite. Voilà.
Il paraît qu'elle avait d'autres atouts.
Le message est passé.
Exactement.
Alors Daniel, tu voulais faire un petit préambule avant qu'on parle du centre de formation.
Le petit préambule, c'est que l'émission d'hier a évidemment eu énormément de répercussions, que mon nouvel ami Mehdi Aitamen, donc ce jeune agent qui se lance dans la carrière et pour qui les débuts sont un petit peu compliqués, a reçu beaucoup de coups de fil aujourd'hui. Comme par hasard, il a reçu un coup de fil de Frédéric Longuepé, le président des Girondins de Bordeaux.
Lui-même a dit qu'il était surpris.
Ils vont peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est leur premier contact. Et en tout cas, au moins le président l'a appelé et pas les autres avec qui il est en conflit, parce qu'il est principalement lui en conflit avec Massia, ouais, plus qu'avec Longuepé direct. Donc pour le volet civil de l'affaire, il y a peut-être moyen de trouver une solution à l'amiable pour ce qui se relèvera du pénal et qui ne concerne pas directement Longuepé et Bordeaux. ça, ça ira jusqu'au bout de la procédure et au tribunal. Autre point, il a également reçu hier, on n'a pas, j'ai pas cité le nom de cet avocat qui a permis à la fameuse Raquel Herzaiz d'avoir sa licence en Espagne. Je voyais pas tellement l'utilité de citer le nom de cet avocat, mais enfin aujourd'hui donc il entre en contact de la même façon avec Mehdi. C'est déjà étonnant qu'un avocat de cette renommée, puisqu'il s'appelle Sevan Karian et que c'est l'avocat notamment d'Antoine Griezmann quand même, c'est une pointure dans le milieu, se retrouve dans un dossier pareil. Moi ça me surprendra toujours ça, qu'on choisisse pas mieux ses dossiers. Il a été présenté aux joueurs, parce qu'un mec de ce niveau qui s'occupe d'un joueur que personne ne connaît. Toujours un petit peu, bon, il a le droit, hein, il a le droit, tant mieux si un petit joueur peut avoir un grand avocat. Bon, il a évidemment été présenté aux joueurs par notre ami, par notre ami Raquel. Voilà, ça me surprend, et surtout que finalement j'ai encore eu des pièces aujourd'hui. Je termine le préambule parce qu'il y a eu un point d'achoppement sur la durée de représentation du joueur qu'avait notre ami Mehdi. Ouais. Le club de Bordeaux écrit encore le 30 janvier à Mehdi Aitamen, donc il fallait le préciser dans les dates. Il est nickel et tous ses contrats sont en bonne et due forme, et donc je pense qu'au final, ce n'est que mon avis parce que je suis pas juge, mais il devrait obtenir gain de cause. On passe à un autre dossier.
Alors, on va parler du centre de formation
lourd,
de Bordeaux.
Là, on va parler
pourquoi
encore plus lourd. Là.
Parce qu'on a un fonctionnement qui peut paraître assez étonnant. Je vais juste retracer le parcours de Souleymane Cissé ces dernières années,
voilà.
Qui était en charge du centre de formation de Monaco. Qu'il a quitté en janvier.
Il s'occupait plutôt de recruter des jeunes pour Monaco plus qu'en charge du centre de formation.
Alors, pardon,
il a toujours un rôle un petit peu flou qu'on comprend pas bien quand même.
En tout cas, il a quitté l'AS Monaco en janvier 2018.
Il s'est fait virer.
Voilà.
Il s'est fait virer de Monaco. Oui.
Il est par ailleurs le fondateur. Il était le président. Et maintenant, il se présente juste comme fondateur d'un club de foot ivoirien qui s'appelle le Racing Club d'Abidjan.
Exactement, mais de toute façon, c'est des membres de sa famille qui gèrent le club au quotidien. Ça aidera à comprendre certaines choses plus tard. Ouais. Voilà.
Là-dessus, quand il quitte Monaco, il devient recruteur pour l'OGC Nice, pour l'Afrique. Oui. Voilà. Et dans le cadre de cette tâche, il noue un partenariat entre son club, le Racing Club Abidjan, et l'OGC Nice. Partenariat qui existe toujours aujourd'hui. Pour preuve, des photos sur le site du Racing Club d'Abidjan, où il y a eu des distributions là pendant la crise de coronavirus, notamment de sacs de riz et tout, parrainés par l'OGC Nice. Et Robert Radcliffe, qui est le frère de Jim, qui est l'homme qui gère l'OGC Nice, hein, qui, voilà, était justement en Côte d'Ivoire au début de l'année 2020, en février, pour aller voir le Racing Club d'Abidjan. Donc voilà, donc il y a un partenariat important entre Abidjan, le Racing Club d'Abidjan et Nice.
Ce qu'il faut comprendre, Jérôme Laure, je ne sais pas ce que vous en pensez, imaginez vous, vous êtes le président de Bordeaux. Vous avez donc un salarié de votre club qui s'occupe des jeunes, qui a un club en Côte d'Ivoire, mais ce club en Côte d'Ivoire a un partenariat avec Nice. Les meilleurs jeunes, ils vont.
Un peu conflit d'intérêt.
T'es le président de Bordeaux, tu te dis, mais attends, si t'as des bons jeunes là, vu que t'es en business avec Nice, tu vas les envoyer avec Nice ou tu vas les envoyer chez nous? Comment ça va se passer l'histoire? Comment un mec qui est salarié de Bordeaux peut, par le biais de ce qu'il appelle une académie, mais qui est en fait un club de foot normal, à Abidjan, être en partenariat avec Nice? Je ne tire aucune conclusion, je dis juste que
pour l'instant,
ça me paraît incroyable.
Incroyable, juste pour être complet, ouais. Pour l'instant, à moins qu'il y ait des trucs qui nous aient échappé, on n'a pas vu de trace de transfert de joueurs de ce club à Nice ou à Bordeaux. Hein. En tout cas, le partenariat existe. Oui, Jérôme?
En fait, ça peut paraître surprenant, en effet, comme dit Daniel. Après, ça peut aussi arriver très souvent, avoir une académie en Afrique, ça arrive à beaucoup de joueurs et ils sont pas tout seuls
gérer. Il y a pas de double comme ça appartenance.
Cette académie ait des liens avec un club en particulier,
c'est
oui.
Bien sûr. C'est le cas de Metz. Metz a une académie en Côte d'Ivoire.
Que ce soit fait par un mec qui est salarié d'un autre club, ça c'est juste dingue
en
revanche.
Non, par contre, il prend ses... Donc en fait, il avait cette académie avant d'arriver à Bordeaux, on est d'accord?
Oui.
Donc quand il vient bosser à Bordeaux, bon après s'il a été clair sur le fait que à Bordeaux en effet il a cette académie et cette académie bosse
avec Nice. Moi je suppose qu'il a été clair et que Bordeaux a accepté. Bah, c'est ça qui est incroyable.
Courant. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde est au courant.
Oui. Mais en fait tu voudrais quoi que les jeunes de cette académie.
Là. Enfin moi je suis président, je lui demande tout le temps. Mais attends le meilleur jeune tu l'envoies où?
Prenons le cas, imaginons qu'il ait une pépite au Racing Club d'Abidjan. Il a une pépite, un jeune super.
Oui, mais fort. Il est pas tout seul dans cette académie, c'est ça que c'est ça famille, je veux vous dire.
Donc tennis, tu te dis bah attends, nous on veut ce joueur, on est partenaire. Ouais. Mais t'es Bordeaux, tu te dis bah attends, moi je le veux aussi.
Bah, t'es mon
responsable du.
Mais Bordeaux n'avait pas signé de partenariat, c'est ça ce que je veux vous dire.
Oui,
donc,
mais le rôle il est pas normal, il a pas à faire les deux, il a pas à être les deux. Il
ça peut
pas être les deux, Jérôme.
Ça me choque pas tant que ça. S'il a été clair avant le coup.
Mais ce qui a été clair, ce qui n'est pas clair avant le coup, c'est que de toute façon Bordeaux le prenne. En sachant tout ça, déjà son CV aurait dû faire penser à Bordeaux qu'il fallait pas l'embaucher. Deuxième chose, Souleymane Cissé est la première recrue de GACP qui voulait faire son business de trading de joueurs. Si on prend Souleymane Cissé, c'est qu'on sait qu'il va faire son business avec des jeunes. GACP s'est fait virer de Bordeaux. Pourquoi Souleymane Cissé est encore à Bordeaux? GACP, on a dit, la gestion de GACP à Bordeaux, elle est catastrophique, Varela, machin, mais le premier qui a été recruté, il est encore là. Je croyais que GACP s'était fait dégager, pourquoi on le garde lui? Parce que c'est un génie. Tu sais quel genre de génie c'est? C'est un génie.
Après, peut-être qu'il lui envoie des compétences là-dessus, Daniel. Bon.
Absolument. Bon, il est tellement compétent qu'il a fait que la masse salariale a explosé tellement il a fait signer des jeunes. Le centre de formation de Bordeaux, il faut le savoir, c'est une bombe atomique, hein. Ils sont tellement forts, tous les joueurs qu'ils ont, c'est des bombes atomiques. Il en a fait signer 12. T'en connais, toi, des centres de formation qui, en un an, font signer 12 mecs?
Non, mais bon, après, ça dépend du projet du club aussi. Et d'accord.
Très bien.
Moi, je veux pas passer mon temps à le protéger ou quoi que ce soit parce que je le connais. Du moins, je le connais pas personnellement. Je l'ai déjà vu.
Tu l'as rencontré, quoi.
C'est plus lui qui est venu me dire bonjour que moi qui allait lui dire bonjour. Mais blague à part.
Tu me présenteras les gens qui t'en ont dit du bien parce que sur 48 heures et 150 coups de téléphone à tous les agents, j'ai pas eu un témoignage, un seul. Pour me dire du bien de cette personne.
Je rappelle évidemment. Écoute, une nouvelle fois. Attends,
donc tu me présenteras qui sont ces gens-là.
Monaco, il y en a.
Mais c'est fait virer de Monaco.
Daniel est assez.
Et pourquoi?
Daniel est assez dur.
Je préfère pas le dire parce que j'ai pas de preuves.
Daniel est assez dur avec Souleymane Cissé. Je rappelle. Attends. Je rappelle quand même qu'il peut venir dans l'after, discuter avec nous.
Oui, non mais.
Le gros, je n'ai pas encore sorti. C'est-à-dire qu'à cause de lui, Bordeaux risque aujourd'hui une interdiction de recrutement de 2 ans.
Non mais.
Je veux bien voir qui va me le défendre sur l'affaire concernant Thibaut Klinger. Okay. On va en parler dans un instant.
Mais de toute façon, écoute, moi, t'as des pièces, t'as travaillé.
Ah bah, c'est pas qu'on a des pièces, quoi. C'est au-delà des pièces.
Je suis en train de te brosser dans le sens du poil.
C'est normal.
Maintenant, je sais pas si c'est normal. Mais c'est vrai que moi, je participe à ce débat où là, moi, je découvre, comme tous les auditeurs, les pièces que tu as et les dossiers que tu as. Moi, je te dis juste que ce mec-là, j'ai eu des échos à Monaco où il y a plein de gens qui m'ont dit, il y en a, et qui m'ont dit que c'était un bon mec, qu'il avait des qualités. Après,
Il est sympa.
Non, mais. Écoute, il est parti de Monaco parce qu'il s'est chopé surtout avec Barry Larro, qui était le directeur du centre là-bas et entraîneur de la réserve longtemps. Moi, il y était déjà quand j'étais joueur professionnel à Monaco. Et que quand tu. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu te chopes avec ton directeur de centre, bah forcément, c'est compliqué de continuer l'aventure. Voilà, c'est pour ça. Et il arrivait d'Evian, il me semble, avant, hein, c'est ça?
Crois sa voix.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Ce qu'on dit.
Non, mais après.
Ce qui s'est passé à mais il n'y a pas un endroit.
Mais après, Daniel.
Il n'y a pas des casseroles énormissimes.
Laure.
Après, Daniel, il faut savoir aussi, quand ce Souleymane Cissé il a été recruté, déjà, qu'est-ce qu'on lui a demandé?
D'empiler les jeunes pour le business.
Ouais, mais alors du coup,
il a fait exploser la masse salariale. Les finances de Bordeaux sont dans le rouge. On parlera tout à l'heure des gros transferts qui ont été faits ces dernières années et qui ont contribué également à ça. Lui s'occupe de la partie jeune. les problèmes financiers sont aussi dus à la gestion de ce volet-là, à savoir les jeunes à Bordeaux.
Laure, oui, vas-y.
Alors peut-être qu'on en arrivait là, mais s'il a fait signer 12 jeunes, c'est peut-être parce que sa directive justement c'était alors que le club demandé, puisse s'appuyer sur la formation.
Donc ah, c'est, si vous voulez dire que les responsables sont au-dessus, vous pouvez dire que les responsables sont au-dessus.
Non, mais je dis pas
les responsables, ils y sont.
Bien sûr. Alors peut-être que lui, il s'est peut-être trompé dans le choix des joueurs qu'il a recrutés et qu'il a intégrés dans le centre de formation. Mais si la commande au départ, c'était de se baser sur la formation, je trouve pas ça complètement incohérent de faire venir des jeunes pour s'appuyer sur la formation pour l'équipe future.
Mais c'est quand même alors, quand assez. Quand tu fais venir des jeunes dans un club, c'est pour les faire jouer à Bordeaux, pour faire progresser Bordeaux ou pour les revendre immédiatement pour faire de la sous-traitance?
Vu ce qui a été prononcé par la direction, non, ça a l'air d'être un système de trading où ils former un peu les joueurs.
Et c'est bien pour Bordeaux, ça.
Alors attends, on va arriver à l'affaire du jeune joueur togolais. Juste à ce stade, on peut dire, je sais pas, si demain le centre de formation des Girondins ramène 4 joueurs en équipe première, on dira bravo.
Non, puisqu'il reste pas, on peut pas le savoir.
Et si il en vend 7 et que ça fait faire du bénéf au club, ce que veulent les propriétaires, il aura rempli le cahier des charges des propriétaires.
Non, je
comprends
pas.
Après, on peut remettre en question le modèle, ça c'est autre chose.
Ouais, mais le problème c'est que ça s'est pas passé comme ça.
Alors, on en vient à l'affaire du joueur togolais.
Donc ça, c'est une affaire qui, dont le dossier est sur le bureau de la FIFA. Qui a été jugé une première fois au Togo et qui a donné raison à l'agent qui s'est fait court-circuiter puisque c'est la spécialité de Souleymane Cissé. Le dossier est sur le bureau de la FIFA et ça peut valoir à Bordeaux, il y a beaucoup d'articles déjà là-dessus, vous pouvez consulter, 2 ans d'interdiction de recrutement au club bordelais. Ça, je pense que ce sera un préjudice un petit peu grave, surtout que la FIFA traque ce qu'on appelle les bridges, à savoir les transferts relais. C'est ce qui s'est passé dans le cas de ce Thibaut Klinger. Souleymane Cissé s'intéressait, avait repéré ce joueur qui jouait en D1 au Togo. Il a proposé à l'agent du joueur de participer à un deal que l'agent a refusé. Le deal, c'était simple, c'était de transférer le joueur de D1 au Togo, non pas de l'acheter directement à Bordeaux, mais de le faire transiter par une équipe de D3 en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Pour qu'il redevienne amateur. Et comme ça, ça coûte rien. Il n'y avait pas d'indemnité de transfert de club pro à club pro. Ça, c'est quelque chose que la FIFA traque à mort, qu'a priori, ils ne vont pas laisser passer.
Ouais.
L'agent du joueur en question, évidemment, se démène pour d'abord à refuser le deal. Lui, très honnêtement, il a refusé de participer à cette mascarade. Souleymane Cissé et ses amis, parce qu'ils travaillent beaucoup avec une agence qui s'appelle Sportback, ont essayé d'abord de faire annuler le contrat que le joueur avait, donc Thibaut Klinger avec son agent. Ils ont échoué en disant qu'il était mineur au moment où il avait fait signer, mais non, parce qu'il y avait la signature des parents aussi, donc il n'y avait rien d'illégal et les tribunaux au Togo ont donné raison à l'agent. Donc maintenant, ça va se terminer à la FIFA, et ça, le transfert relais, c'est, bon, j'en ai parlé avec certains agents, c'est une pratique qui existe sur le continent africain, c'est quelque chose qui donne une très mauvaise image du continent. L'agent en question est togolais et lui, évidemment, il est catastrophé par cette situation puisqu'il me dit ça va être encore une mauvaise image pour nous et pour tout ce que nous on essaye de faire. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très concret. J'ai toutes les pièces, mais de toute façon, la FIFA est déjà informée de ça. Le transfert relais, c'est gravissime.
Oui, mais ça,
au bout, c'est 2 ans d'interdiction de recrutement pour Bordeaux.
Ouais, ouais,
c'est possible. Là, attention, on attend le jugement. Hein.
Mais encore une fois, quand je me mets à sa place.
Mais ça, c'est pas excusable.
Non, mais.
Mais tu te rends compte de ce que tu dis?
Mais non, je dis pas que c'est excusable. Je dis juste que c'est pas lui qui a pris cette décision-là. Tu vois, c'est que lui, il est en charge de ça, mais c'est qu'on lui a dit, et c'est ça le problème.
Non, c'est là que tu te trompes.
Mais non, c'est toi qui te trompes, Daniel. Je te le dis, c'est toi qui te trompes.
Alors, tu veux que je te montre les conversations entre Souleymane Cissé et l'agent du joueur? Tu sais ce qu'il lui dit?
Oui, mais
tu sais ce qu'il lui dit?
C'est lui qui représente.
Il représente qui?
Il représente. Il bosse pour Bordeaux, donc c'est un arrangement pour pas payer une indemnité, comme t'as dit. Il le reclasse amateur.
Donc il est pas. Donc il est pas responsable de ça.
Mais en aucun cas, je suis en train de le défendre. Là, il a fait une erreur.
Quand le salarié de cette entreprise, Sportback, écrit au joueur pour lui proposer le deal. Si tu fais le deal, on te donne 50 000 euros et 10% sur la revente plus tard du joueur. Si là, on n'est pas dans un deal hallucinant de quoi on parle.
Oui, oui, non, mais...
Tu penses que Frédéric Longuepée est au courant de cette histoire-là? Évidemment que non, il n'est pas au courant.
Non, mais peut-être
et
pas
tu sais ce qu'il a dit.
Peut-être pas.
Et tu sais ce qu'il a dit à cet agent? Conversation avec cet agent. Aujourd'hui, j'ai les mains. Non, nous avons les mains. Lui, Massia, sur les finances du club. Accepte le deal, on va le faire. Et lui et l'agent en question a refusé. Le dossier sur le bureau de la FIFA, crois-moi que c'est très grave ce qui se passe.
Dans quelques instants, il n'a aucune excuse.
Et Massia et la direction de Bordeaux non plus.
Non, mais en aucun cas, Daniel, j'ai pas dit que c'était pas grave.
Consulte des agents, tu vois ce qu'ils vont me dire là-dessus. Non,
mais toi, tu dis peut-être, ça vient, c'est peut-être des consignes du club.
Écoute, lui, responsable.
Ça peut pas être une consigne.
C'est lui, Jérôme, Daniel.
Je pense, je te dis, moi, les échos que j'ai,
pour conclure,
ce que j'ai entendu sur lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil, qui est un bon mec. Non, mais
on parle pas de gentil là, c'est grave ça.
C'est quelqu'un qui est gentil et qui se laisse. En fait, il manque de personnalité, donc il se laisse aussi
manipuler.
Ouais, je pense qu'il y a un peu tout. Après, ça n'empêche que ça, ce que tu viens de dire, c'est une révélation, c'est une énorme erreur et peut-être qu'en effet, il va être puni.
Lui, SMS qu'il envoie, tu vois, s'il manque de personnalité.
Ouais, écoute, moi, je sais.
Il manque de personnalité, ouais.
Tu l'as rencontré déjà.
On conclut là-dessus parce qu'il y a encore d'autres choses à raconter derrière. On arrête. On passe au dossier suivant.
Mais d'accord.
Dans quelques instants, on a Dylan au 32-16 avec nous. On revient tout de suite dans l'after.
On a un dossier épais comme.
Oui, le dossier Girondin de Bordeaux. À tout de suite.
Comme le.
RMC.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Laure Lepailleur, ce soir, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, après 23h l'actu du jour, on parlera notamment d'Anigo, qui a donné une longue interview à la Provence très intéressante, et on en débattra, ce sera tout à l'heure bien sûr, mais tout de suite on continue notre dossier bordelais, et avant de parler des contrats de certains joueurs, on va accueillir Dylan au 32-16 qui est supporter des Girondins. Dylan, bonsoir.
Bonsoir.
Salut Dylan.
Salut.
Supporter Girondin, bien sûr.
Oui, bon. Tout à fait.
Alors, quand on entend toutes les histoires que nous racontons, l'enquête de l'after donc depuis hier et ce soir là, bon, comment tu réagis toi en tant que supporter des Girondins?
Ben, pas surpris quoi, parce que nous ça fait déjà depuis leur arrivée, on a déjà été informés par des personnes que avec King Street on a les droits dans le mur et que. Avec les écoutes qu'on a eues là cette semaine, les gens vont ceux qui avaient confiance en eux là, ils vont vraiment voir leur
conversations qui ont été publiées par des sites de supporters, hein, donc ça c'est pas ça vient pas de l'after, hein, donc
ça vient de nous les ultramarines.
D'accord. Alors tu voulais également dire un mot des contrats de certains joueurs.
Ouais, tout à fait. On est à Bordeaux, on est sur une quarantaine de contrats pro au club. Mm-hmm. Donc ce qui est énorme. Et sur les.
C'est tous les jeunes dont je parlais tout à l'heure là qu'on fait signer pour faire de la sous-traitance.
Après ça existe aussi à Monaco. C'est une stratégie de club en fait ça. Ouais,
mais ça creuse. Mais après ça creuse un budget. Aujourd'hui le club il est en perdition et peut-être et certains parlent même de dépôt de bilan ou de catastrophe financière à venir quoi. Je veux dire le fait que ça existe à côté, je n'arrive jamais à comprendre quand on dit ça existe à côté. Mais les clubs souffrent de ça. C'est ce qu'on dénonce tout le temps. C'est-à-dire, arrêtez de dire à des supporters ça existe, c'est un modèle de football. C'est un modèle de merde.
Je peux pas te laisser te dire ça. Moi, j'adhère pas non plus au modèle parce que c'est une tu t'identifies plus au club qui est une machine à fric.
Mais c'est pas une machine à fric, c'est une machine à couler le fric.
Attends, ça peut être une machine à fric quand c'est bien fait.
Mais
exemple Monaco. Monaco, c'est une machine à fric. Et puisqu'ils vendent. Alors, tu vois.
Oui, c'est vrai que c'est la politique.
Ça va bien Monaco donc. Donc ça va bien Monaco.
Je te dis pas que Monaco va être champion de France.
On ne dit pas que sportivement.
J'arrive pas à comprendre toute l'année. Vous êtes sans arrêt. Le modèle du
tu vas comprendre. Le modèle.
Monaco,
moi je dis
l'exemple. C'est l'exemple.
Mais Monaco, faut reconnaître que quelque part ils y arrivent. On n'adhère pas, mais ils y arrivent.
Oui.
Voilà. À Bordeaux, là, pour l'instant, ils n'y arrivent pas.
Et financièrement, à Monaco, ils sont plus enrichis qu'autre chose. Enfin, c'est très compliqué.
Les dirigeants, en l'occurrence.
C'est pas grave si Bordeaux coule et si tout le monde croque.
Mais bien sûr que si.
Mais on dit pas que c'est.
Cela dit, à Monaco, c'était plus transparent, puisqu'à Monaco, on rappelle que Vassiliev était directement, lui, par contrat, intéressé sur les ventes de joueurs. Il touchait lui individuellement.
Et donc ça c'est bien.
Mais non, c'est pas bien.
Ah d'accord.
Mais bien sûr que non. c'était un fonctionnement qui
stratégie.
On va dire que c'était transparent.
Oui, avec le président, c'était clair.
Voilà.
Autant, comme tu parlais là de comment.
Tu comprends la différence.
De Cissé tout à l'heure, autant là, ce qui lui veut mettre en place, il y a pas de transparence.
Alors
là.
On va y venir. Dylan, vas-y, tu peux rajouter ce que tu voulais dire sur le contrat du coup.
sur les contrats, comme je disais, sur une quarantaine de joueurs pro, comme il disait Daniel, avec pas mal de jeunes, il y a au moins un bon tiers, voire, bon, je dirais pas la moitié, mais sur 40 contrats pro, t'as minimum une quinzaine qui sont entre 80 et plus de 100 000 euros brut par mois, quoi.
Et voilà.
Ouais, ça, c'est
donc, ça doit être une stratégie.
Ouais, c'est beaucoup quand même.
Ça doit être une stratégie. Non,
je précise que ça existe aussi à Saint-Etienne, ça, hein, des joueurs très jeunes, souvent avec des très gros salaires.
Ouais, mais peut-être pas à 100 000, quoi.
Non, il y en a certains qui sont pas loin.
Attendez. Est-ce que vous avez compris que ce système-là, il était fait pour que des gens croquent?
Mais évidemment.
Il n'était pas fait pour le bien du club.
Sans blague.
Il était fait. Bah là, mais il faut être clair. Il faut expliquer aux gens. Et les supporters doivent savoir que leur club, aujourd'hui, dans beaucoup de modèles qu'on a dans notre championnat, sont des gens qui se rincent partout.
C'est bien pour ça qu'on a cité plusieurs clubs, Daniel.
Donc
en fait, on est d'accord, hein, t'inquiète pas. Hein,
c'est
pas...
Mais là, en l'occurrence, quand tu vois ce qui se passe à Bordeaux, tu n'en as pas un qui peut être sauvé. Voilà,
prenons quelques cas particuliers.
Qui passe pour l'intérêt du club.
Prenons les cas particuliers du joueur, les informations.
Ils n'avancent pas.
Info, et après, on débattra.
Mais après, c'est quand même pas une nouveauté dans le foot que tout le monde croque. Alors, on est d'accord.
Oui, enfin, le problème, c'est que.
Mais là, il croque mal. Là, il croque très mal.
Et encore faut-il que tout ça se fasse de façon légale.
Il faut que le club soit. Ouais, voilà.
Alors, prenons l'exemple de quelques contrats qu'on peut penser quand même très à l'avantage des joueurs.
Le plus important, on parlera d'Oudin après, mais le plus important. Encore une fois, mettez-vous à la place donc des.
Et je remercie Dylan pour.
De ceux qui gèrent le club.
Pour son avis.
Ceux qui gèrent le club, donc. Bordeaux n'a pas beaucoup d'argent, mais décide de recruter Laurent Koscielny. Laurent Koscielny, il a 34 ans. Bordeaux est un club qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui fait un contrat de 4 ans à Laurent Koscielny à plus de 300 000 euros par mois. 5 millions de transferts à Arsenal et prime à la signature. Si ça, c'est de la bonne gestion, bon... Non. Chacun jugera.
En tout cas, c'est de la bonne négociation de la part de l'agent de Koscielny.
Il devait aller.
Exactement.
D'ailleurs, il devait aller
chercher Koscielny même à 34 ans, on est d'accord, hein, et Daniel a raison. Ce que je veux dire, tu sais que
de la même façon, quand je l'ai dit pour Payet qu'ils étaient allés chercher à l'époque à Marseille, ça a creusé le trou dans lequel Marseille est financièrement. Pour Bordeaux, ce sera la même chose. Au début, il devait aller à Rennes. Il discutait avec la direction de Rennes de l'époque. Quand Bordeaux est revenu derrière, et a proposé ça, Laurent Koscielny est allé voir Olivier Létang à Rennes, qui était président à l'époque, et lui a dit, écoute, je ne vais pas pouvoir venir parce que regarde ce que me propose Bordeaux. Et Olivier Létang lui a dit, cours à Bordeaux, petit, cours. Parce que ça, c'est pas possible. Ça tombe du ciel, un contrat pareil. Il faut y aller. Donc il y est allé.
Donc Bordeaux a tendance à clairement surpayer des joueurs. On va dire des salaires qui ne sont pas en rapport avec les finances du club.
Là on est dans l'hallucination totale.
Et qu'est-ce que vous pensez de ça, Jérôme?
Moi je pense que sur le fait, bon, le contrat est, en effet, c'est un beau contrat pour Laurent. Après, tant mieux pour lui.
Bien sûr.
Mais on parle de Bordeaux. Hein, tant mieux pour lui. Oui. Mais pour un club comme Bordeaux, pour la gestion de ce club, c'est
en fait, pour Bordeaux, je ne sais pas si c'est réellement une catastrophe. La catastrophe, c'est plus sur des joueurs qui sont jeunes et qui sont ou des joueurs moyens qui t'apportent pas grand-chose et qui sont très bien payés. C'est plus ça le problème que de donner un gros salaire à un joueur. Moi, c'est pas forcément inquiétant.
Ce contrat, toi, t'es dirigeant de Bordeaux avec les finances du club.
Non, parce que
tu le fais ou pas?
Il vient te dire non.
Non, je le fais pas.
Ah bah, il y a deux secondes, t'as dit, c'est peut-être pas une mauvaise affaire.
C'est pas une mauvaise affaire parce que c'est pas ma stratégie. Mais moi, je suis pas directeur sportif de Bordeaux aujourd'hui.
Si tu le laisses, sachant que le club a des.
Si je le laisse, je le fais pas.
Je pense que
quand tu prends un club comme ça, que tu veux faire en effet éclore des jeunes. T'as besoin d'avoir des joueurs d'expérience à tes côtés. Donc ton équipe.
T'auras peut-être fait deux ans.
La stratégie. Voilà, en quatre ans, c'est beaucoup. Mais
en plus,
il revenait d'une grave blessure.
En plus,
j'aurais pas fait. Mais encore une fois, ça montre les limites, surtout du réseau, de ce qu'ils veulent mettre en place. Pourquoi ils ont pris Koscielny? Parce qu'ils étaient à la rue. Ils n'avaient personne d'autre à prendre. À mon avis, c'est ça. Et c'est comme Marseille à l'époque avec Payet. Et encore, Payet, c'est différent parce que franchement, bon, on va pas revenir sur l'histoire de Payet, c'est pas la question. C'est pas la même chose sur le terrain. Mais Koscielny, c'est un manque cruel de réseau. Si tu prends Koscielny à 34 ans à ce tarif-là, voilà, c'est
Laure, ton avis.
C'est de la mauvaise gestion.
Je pense qu'on en revient toujours un petit peu à la même chose, c'est que on comprend pas la stratégie du club, en fait. Tout est flou.
Oui, mais c'est un peu tout, ça qui est le point central, tu as raison.
Et en fait, c'est ça. Et en fait, tout se mélange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux t'appuyer sur les jeunes, mais tu fais signer un joueur qui est plutôt en fin de carrière, tu le fais signer 4 ans. On a justement l'impression que finalement, ce club, il est dirigé par des gens qui ne connaissent pas bien le milieu et qu'ils sont complètement perdus. On a l'impression qu'ils sont conseillés à droite, à gauche, qu'ils prennent 2-3 informations, ils se disent, oh, bah, tiens, Koscielny, ça peut être pas mal. Peut-être ils se disent, bah voilà, c'est un joueur quand même qui a une carrière aussi derrière lui, qui peut apporter un petit peu de renommée. Peut-être, comme disait Jérôme, encadrer des joueurs, mais 4 ans, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour un contrat pour un joueur 300, qui a 34 ans.
315 000 euros par mois aussi, c'est beaucoup trop.
Non, mais après,
exactement,
quand t'as pas
c'est
les moyens,
trop.
Quand c'est
là,
le mec qui achète une Ferrari alors qu'il a les moyens de s'acheter une Peugeot. Quoi.
Mais tu vois, si tu voulais faire progresser à un moment donné, pourquoi tu payes aussi cher Koscielny, à ce moment-là, ne vend peut-être pas Koundé tout de suite, garde-le encore un petit peu. Et ne donne pas un salaire aussi énorme.
Tout le monde est en vente à Bordeaux.
On est bien d'accord, donc c'est la stratégie qui est totalement à remettre en question, parce que en gros, il n'y a pas de stratégie.
Ouais, et puis la stratégie, c'est surtout les hommes qu'ils y ont, qui sont en place aujourd'hui.
Alors, j'en arrive à un autre cas, qui est le cas de Paulo Sousa. Alors, en fait, ça, c'est les informations qu'on avait déjà quand il est arrivé, donc il y a un an, à peu près, en mai 2019. En fait, quand Paulo Sousa est arrivé, son contrat a été recalé par la Ligue. Pourquoi ? Parce que dans son contrat, il y avait une clause d'intéressement lié aux ventes. Ce qui est, attention, en Angleterre, ça se fait. Ouais. En Angleterre, c'est une pratique autorisée. Voilà. Mmh. Mais en France, c'est interdit.
En France, c'est illégal.
En gros, il y avait. Alors, c'était un pourcentage très, très faible parce que c'était 1%.
Ouais.
Bon, 1%, vous allez dire, sur. Voilà. Donc, oui, bon. C'est pas énorme. Mais enfin, bon, c'est symboliquement.
Chose
et au niveau moral,
même,
c'est vrai que ça peut poser des questions. Attends, le coach est intéressé à la vente. Ça veut dire qu'il a intérêt à ce que les joueurs s'en aillent. Quand t'es coach, c'est quand même assez étonnant comme stratégie.
Et GACP, en plus de ça, lui a mis un contrat à 280 000 par mois, en plus.
Voilà. Alors,
c'est pas étonnant.
Alors, c'est 260, Daniel.
Ah, bon, ouais. Okay.
Bon,
oui,
pardon.
Mais encore une fois.
C'est le plus gros salaire qu'ait jamais eu un entraîneur des Girondins.
Ouais, mais.
Donc. Cette histoire qui est illégale en France de prendre un pourcentage sur les ventes, néanmoins à Bordeaux ils l'ont quand même fait.
Mais ils l'ont fait, ça a été recalé. Et derrière, ce qu'on sait, c'est qu'on a tout de même fait en sorte à Bordeaux qu'ils puissent toucher les bonus
via une agence de droits d'image.
D'accord, ils ont
une boîte.
Ils ont
filé l'oseille quand même via une boîte extérieure d'image. Voilà.
Ben moi, je trouve ça,
moi, je trouve ça dingue.
C'est dingue, comme c'est dingue qu'un directeur sportif touche aussi sur les ventes. C'était le cas pour Vassiliev, c'était le cas aussi pour Piqueux à Angers, par exemple. Voilà, ça, c'est des pratiques, quand même, qui sont totalement hallucinantes dans des clubs de foot.
C'est hallucinant.
T'as intérêt à vendre tes joueurs. Et quand t'es supporter.
Ouais, certains, tu vas plus les exposer, certains, tu vas exposer plus des joueurs parce que peut-être qu'ils vont être plus rentables.
Merci,
donc, dans tes compositions d'équipe, ça va avoir une influence. Moi, je trouve ça complètement immoral et ça devrait même pas exister.
Bien sûr, pourtant.
En France, donc, c'est interdit pour les entraîneurs.
Mais en fait, vu que cette stratégie a été un petit peu nouvelle ces dernières années, et en effet, Monaco a été.
Le trading, tu veux dire.
Oui, voilà. Qu'il y a beaucoup de clubs qui essayent maintenant de faire ça, à l'image de Bordeaux, et qu'ils le font très mal. Mais les contrats vont avec, et les clauses dans ces contrats vont avec aussi. C'est-à-dire, quand tu es directeur sportif, par exemple, je me mets à la place de Vassiliev à Monaco, quand il prenait ce pourcentage-là, bien sûr qu'il avait tout intérêt à vendre les joueurs, mais sauf qu'il l'a fait intelligemment sur les premières années.
C'était bien plus qu'un pourcent.
Oui, c'était 10%, je crois. Ouais. Il l'a fait intelligemment, c'est qu'il n'a pas vendu tout le monde, la preuve. Rappelle-toi du cas Thomas Lemar, qu'il a essayé de garder un an,
ils
que
ont
ceci,
fini par
cela.
Monaco dans la merde, porte de la Ligue 2, avec son départ. Beaucoup. Je signale qu'il y a encore quelques mois, on faisait des émissions sur la catastrophe à Monaco. Le club est en perdition, il va peut-être descendre. Ils ont fait venir un tas de mecs parce que plein de gens ont dû croquer pour faire venir des vieilles gloires. Un effectif pléthorique à plus de 40 joueurs.
On est d'accord, Daniel.
Arrêtez de me dire que c'est un modèle,
en fait,
Monaco.
C'est une réussite financière. Excuse-moi. C'est même une réussite sportive. Ils ont été champions de France. Ils ont fait demi-finale à la Ligue des Champions.
Tout de même, cela montre.
Tu peux pas non plus dire que c'est pas une réussite.
Tout ce qu'on explique depuis hier.
Bordeaux, c'est un cataclysme, ce qui arrive. Ok.
Tout ce qu'on explique depuis hier sur Bordeaux, en fait, quand on prend un peu de hauteur, c'est en fait le symbole de ce modèle-là qui, en fait, est totalement dans l'absolu. scandaleux. C'est-à-dire que est-ce qu'on suit le football pour ça? Est-ce que les supporters s'identifient au club
mais
pour
non,
ça?
Non, c'est pas possible.
Est-ce que un club représente une ville pour ça?
Mais non, mais
c'est ça que ça pose comme question.
Bien sûr, mais t'as absolument raison. Mais ça, moi, là-dessus, pour moi, il y a même pas de débat là-dessus.
Mais qu'est-ce que tu veux faire alors?
Ça va pire.
Bah le condamner. Voilà. Nous, on peut pas racheter les clubs. Donc
on peut condamner.
C'est pire. Parce que Bordeaux, ce qu'ils ont fait, c'est que le club a été vendu. Et il a été géré par une société extérieure, en l'occurrence GACP. Donc, quand King Street a remis le nez dedans et qu'ils sont aperçus que c'était horrible, ils ont viré GACP tout en gardant certaines personnes. C'est ça qui est dingue. Ils ont gardé Massia et ses relations troubles. Ils ont gardé Souleymane Cissé. Ils ont gardé Paulo Souza, qui est l'entraîneur, qui est là pour mettre des joueurs dans la vitrine, éventuellement les vendre. Parce que si certains supporters bordelais pensaient qu'on pouvait le sauver.
Paulo Souza a d'autres qualités de coach sportif.
Il a des qualités de coach.
Bon, enfin, voilà, il y a aussi ça.
On l'a dit plein de fois. Mais quand tu découvres l'envers du décor, tu dis, mais en fait, c'est tout le monde qui doit partir. Le club doit passer dans les mains de nouveaux propriétaires.
Mais on est d'accord, repartir de façon saine parce que
là, ça ne peut pas bien se passer. Tu as trop d'intérêts divergents. Tu as trop de mecs qui ont besoin, un, de vendre, un, de faire des résultats sportifs. Le président, pour l'instant, il gère rien parce qu'il est en conflit avec les supporters. Il a mis un numéro 2, c'est une catastrophe. On en parlera demain soir. Il y a rien à sauver à Bordeaux.
Mais en fait, il y a rien à sauver dans ces stratégies-là.
Cette stratégie, elle peut marcher un an, deux ans, comme ça a fait à Monaco. Mais en fait, ça ne peut, il n'y a pas de destinée positive.
En fait, le problème, c'est que, en effet, comme tu dis, ça a marché à Monaco. Ça a pris forme aussi à Lille. Tu vois, parce qu'il y a des gens compétents, donc
faut
ça
faire
il faut
attention au court terme.
Non, écoute, laisse-moi finir. Là-dessus, ça a pris forme. Moi, c'est pas le foot que j'aime, en effet. Et toi non plus, Daniel. Et toi non plus, Gilbert. Donc, quand on est passionné de foot, quand on aime le football, le football qu'on a connu avant et qui existe encore dans certains clubs, heureusement, mais de moins en moins en France. Tu vois, et ben nous, c'est ça qu'on aime, c'est s'identifier à un club. Et tout à l'heure, on parlera des joueurs du Paris Saint-Germain. Encore une fois, je remettrai une petite couche là-dessus. Mais s'identifier à un club, montrer ce que c'est, que les supporters arrivent à vraiment aimer ce club à travers les joueurs qu'ils représentent. Aujourd'hui, tout ça, c'est impossible. Parce qu'en effet, il y a des conflits d'intérêts partout. Je veux dire, l'entraîneur, quand tu sais que l'entraîneur, où ils ont trouvé une clause. Donc, franchement, il est aussi dépendant, son salaire est aussi dépendant de la vente des joueurs. Dans ses choix, c'est que le matin il arrive. En effet, s'il a un joueur, il se dit putain, lui, il va falloir qu'il parte parce que il a une bonne valeur marchande, mais en ce moment il est à la rue. Mais bon, il faut quand même que je le fasse jouer parce que sinon il partira jamais, tu vois. En fait, même le discours que t'as avec lui, il est pas clair. Et ça, c'est difficilement concevable quand t'aimes le football.
Vous savez ce qu'on va essayer de faire quand même dans les semaines qui viennent, on a le temps de le faire, Daniel. Il faudra quand même qu'on prenne finalement l'opposé et qu'on identifie un club vertueux qui fonctionne bien. Et qui nous explique comment eux ils fonctionnent.
Tu sais,
parce que ça, c'est aussi intéressant.
Et tout,
tu comprends? Si tu fais c'est aussi intéressant de montrer comment ça peut marcher positivement.
Il y a Paulo Souza, par exemple, Benito, le mec qui est venu là, à gauche, là. Ouais. Les recruteurs avaient dit à Paulo Souza, dans une défense à 3, tu peux éventuellement, mais jamais en piston. Le mec, il est libre à 27 ans en Suisse. On n'est pas en train de parler d'un crack.
Oui,
libre à 27 ans en Suisse. Il vient à Bordeaux, il lui donne, quand on parle de gestion d'oseille, 120 000 par mois, c'est un gros salaire plus prime.
Je dis bravo.
À l'arrivée, il est pas bon. Il joue même pas à sa place, mais Paulo Souza le fait jouer.
Mais écoute,
pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi.
Daniel, pourquoi? Tu l'as résumé. En fait, c'est pour ça que moi ça me choque beaucoup plus que le salaire de Koscielny. C'est fou quand même, parce que ce joueur là, tu lui en proposes 40, il vient en rampant à Bordeaux. D'accord. Mais là, tu en proposes 120 parce qu'en effet, la soupe est bonne, les coms sont bonnes et à droite.
Et puis, je te dis pas sur ce salaire-là.
Non, mais
tout n'est pas forcément net non plus sur le salaire.
Exactement.
Hein, bon.
Donc, ce que je veux dire.
Mais là, j'ai pas de preuve.
Non, mais c'est un cas parmi tant d'autres.
Là, on l'a dit, mais j'ai pas de preuve. Parce que tout le reste, j'ai que des papiers, donc je vais m'en tenir déjà.
C'est un cas parmi tant d'autres.
Et bon, ça, c'est déjà.
Rappelle-toi, tu te souviens l'époque, moi, où j'étais au PSG. Pourtant, c'était pas la même stratégie. Mais bon, ils mettaient pas forcément la main à la poche, les ronds comme il fallait pour avoir une équipe. Rappelle-toi quand Souza est Everton, ils viennent. Tu te souviens, Souza Everton, ah, oui. D'accord. Ils sont arrivés par le biais d'un agent influent, un ancien joueur qui s'appelait Valdo, d'accord, qui a fait confiance un petit peu à tout le monde là.
Ils devaient en recruter un.
Ouais, ils ont pris les deux.
Et l'autre est venu au dernier moment. Ils l'ont mis dans l'avion. Ils disent, si tu veux lui, il faut prendre.
Ouais. Et tu sais combien ils gagnaient en salaire à l'époque, hein? Parce que c'est pas les salaires d'aujourd'hui. Il y en avait un, Souza, il gagnait 120 000 euros par mois. Et Everton, qui avait deux pieds carrés, que je te raconte pas, il en gagnait 90. Et il y a pas un petit conflit d'intérêt de la part des personnes en place là, à ce moment-là. Et ben c'est exactement la même chose, sauf que
dans d'autres clubs.
Sauf que là, c'est non mais ça, comme moi je voulais montrer l'exemple comme quoi ça a toujours existé. Sauf que quand c'est des petits coups à droite, à gauche, tu le vois pas forcément. Bon, t'es pas trop con quand même quand t'es à l'intérieur d'un vestiaire ou dans un club, tu remarques. Dans le football, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je défends le truc en disant, ça fait des années, en effet, qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts de Pierre, Paul ou Jacques. Mais là, quand ouvertement tu dis la politique, c'est en effet de former des jeunes, d'en prendre et de les vendre, et que derrière tu fais des coups comme ça avec des personnes qui en plus de ça ont des dossiers derrière, eh ben oui, le club il est mort là, et là il va falloir faire quelque chose. Mais il n'y a pas que Bordeaux, il faudra s'intéresser aussi à d'autres clubs, hein, parce que évidemment. Franchement,
dans quelques instants, Nicolas qui veut réagir au 32-16, supporter bordelais lui aussi, ensuite on clôturera le dossier pour ce soir et on passera au reste de l'actu, bien sûr. À tout de suite dans l'after
RMC jusqu'à minuit,
l'after foot, Gilbert Bribois
avec Jérôme Bretagne, Laure Le Payeur, Daniel Riolo, et on accueille Nicolas au 32-16, supporter des Girondins. Nicolas, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Nicolas, voilà. Alors, on t'écoute.
Alors, moi, plus qu'un coup de gueule, parce que bon, finalement, on a tous compris que notre club était juste dirigé par des incompétents, j'aurais plutôt une remarque à faire et vous poser une question. On est en août 2018 et donc on joue le barrage de Ligue Europa contre la Gantoise. Et ce soir-là, donc le club était encore sous l'égide de M6. Et donc Bordeaux est en instance de vente. Et les supporters donc poussaient déjà un coup de gueule dans la fan zone du stade en disant comme quoi GCP, King Street, qui donc souhaitaient racheter le club, c'était déjà des escrocs. Sauf que la mairie, elle était aussi liée.
Ça, c'est ce que disent les supporters. Hein, attention. Hein, bon, vas-y, Nico, tu peux continuer, Nico. La mairie, oui, la mairie était impliquée.
Non, la mairie était impliquée. Comment des ultras qui sont censés être extérieurs à tout ce genre de dossier arrivent à avoir ce genre d'informations et la mairie non?
Bah, écoute, moi je veux pas. Les ultras, c'est pas non plus des enquêteurs hors certifiés. Les ultras, ils ont leurs arguments pour les qualifier d'escrocs. C'était peut-être aller vite en besogne alors que les gars étaient même pas encore arrivés.
Donc,
ce qu'on sait, c'est que voilà, on a affaire à des fonds de pension qui sont là pour de la rentabilité. Bon, c'est sûr que quand t'es supporter d'un club et que tu vois arriver un fonds de pension, tu te doutes du but du fonds de pension. C'est pas de te faire plaisir, c'est de gagner de l'argent. Voilà.
Assurément.
Donc, oui, non, ça, c'est une chose. Voilà. Après, ils peuvent faire ça de façon tout à fait légale. On adhère ou pas au projet, moral, pas moral, éthique, pas éthique, etc. C'est un autre débat, quoi. Voilà. Donc, toi, tu veux dire que la mairie aurait dû être plus vigilante, en fait, dans la vente. C'est ça?
Parce que par rapport au stade qui a été construit en 2015, donc avec des fonds privés et des fonds publics, il en a bien aussi de notre opinion à nous, finalement.
Et tu mets plus le ballon, je dirais, vers la mairie plutôt que vers M6, parce que c'est M6 aussi qui vend. Hein.
Oui, non, bien sûr. Mais moi je suis désolé, mais si demain le club venait à mourir, ce stade, il va bien falloir le payer. Et sur qui ça va retomber? Certainement sur nous, non?
Ah bah oui, si tu habites Bordeaux, oui. Les impôts locaux en l'occurrence, ça compte.
Bah, alors déjà, parce qu'on est un club historique, s'il faut champion de France quand même, moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait clairement mal au cœur de me dire que le dernier gros match qu'on a disputé, nous, c'était en 2018. Bon,
après, si ça peut te rassurer, il y a d'autres cas en France de grands clubs qui ont connu de grosses difficultés financières. Et puis, ils repartent sous différentes formes, mais ces clubs-là ne meurent pas. Ils renaissent. Voilà, Nicolas. Bon, on ne souhaite pas à Bordeaux de tomber bas, hein, bien sûr. Hein.
Non, je sais, mais en tout cas, je vous écoute avec attention depuis hier et ça me fait vraiment peur de me dire en plus si on devait être interdit de recrutement pendant 2 ans, si jamais l'année prochaine, parce que vu l'équipe de bras cassés que nous avons, on venait à descendre. Comment on pourra reconstruire derrière? Enfin, c'est surtout ça.
Alors, on n'en est pas encore là.
Non, t'en es pas là. Là, ce qu'il faut clairement souhaiter au plus vite pour le club, c'est un rachat. clairement aujourd'hui King Street à la moitié du prix, il rentrerait presque dans leurs frais. Il faut juste virer de mon point de vue, se séparer de tous les gens qui sont à la direction aujourd'hui, parce qu'ils ont montré toutes leurs limites et même beaucoup plus, et tout repenser. Et quand je vois après l'émission d'hier et bon, ce qui se passe avec les supporters, ce qui se passe avec d'anciens joueurs qui commencent à parler. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont se bouger un petit peu. Là, la situation, elle est vraiment très, très critique à Bordeaux. C'est le club en France aujourd'hui qui est le plus près du précipice. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est sûr.
Daniel, en trois minutes, le cas Oudin.
Bah Oudin, c'est encore oui la fameuse gestion. Alors lui, il y est pour rien, le pauvre petit joueur. Il se trouve que Paulo Sousa le voulait vraiment, le joueur. C'est vrai qu'en même temps à ce moment-là, la Fiorentina aussi, parce que vous vous souvenez l'histoire, il était parti, mais finalement il devait. Bon bref, à 10 millions Reims, quand ils ont vu l'offre, ils ont dit mais on vend tous les jours. Ils étaient méga heureux. Ils ont fait la valise, rempli la voiture, le frigo, part. Évidemment, c'est une méga affaire pour Reims. À Reims, ils gagnaient 30 000 euros, Oudin.
Ouais.
Normalement, quand tu passes de Reims à Bordeaux, les estimations des témoignages recueillis auprès d'agents, on me dit, si tu doubles, t'es content. Si tu doubles, t'es content. T'es d'accord, Jérôme? T'as fait ce genre de parcours-là.
Exactement.
Quand tu doubles, t'es content.
Et même si à l'arrivée, t'as raison de le dire, mais aujourd'hui, c'est peut-être encore moins le cas parce que Reims a fini devant Bordeaux, donc tu vois, quand tu vois les difficultés de Bordeaux, tu peux t'attendre à ce que ça augmente, mais pas forcément le double.
Mais malgré les difficultés de Bordeaux, on lui a sorti un salaire autour de 120-130 000.
Bravo.
Wow. Le joueur est content, l'agent est content, tout le monde est content. Moi j'ai eu l'agent qu'est-ce qu'il dit? Et là pour le coup, lui il est coupable de rien, il a raison, il dit nous on fait la proposition.
Heureusement, bah oui.
Tout le monde est voilà, la gestion de Bordeaux en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis dans cette affaire-là, on peut se poser la question de pourquoi l'intervention de Hugo Cajuda, qui est l'agent de Paulo Sousa, qui va voir Reims alors que Rémi Houdin a un agent qui a pignon sur rue, qui a un agent réputé, qui fait tout comme il faut. L'agent Hugo Cajuda de Paulo Sousa va voir Reims et dit, écoutez, si vous voulez que je vous facilite le truc pour que ça aille plus vite, si vous voulez que j'arrange un petit peu les choses et tout, je peux le faire. Éventuellement, c'est un travail, il faudra me payer pour ça. Et ben Reims, ils ont payé.
Ah, mais ils voulaient vendre le joueur. Donc
en fait, ils étaient tellement en panique que les 10 millions ce soit pas vrai, ils ont dit ok. Après là, paniquez pas, il y a pas de problème, on va le faire le deal, il y a pas de problème.
Donc là, ce qui est gênant,
mais
Daniel,
t'as quand même un mec qui a croqué.
Ce qui est gênant,
c'est ouf, mais voilà.
Ce qui est gênant, c'est que c'est l'agent du coach.
C'est l'agent du coach qui va voir Reims pour dire si vous voulez que je vous facilite le truc, parce que Paulo Sousa, il le veut vraiment, le joueur. Hein.
Maintenant,
d'accord, mais il a un agent, putain.
Une nouvelle fois, moi je trouve ça choquant, mais une nouvelle fois, dans le foot, c'est pas nouveau. Hier, tu nous parlais l'exemple de Jeannot Vert à Monaco.
Ah oui,
mais il était l'agent de Deschamps et il gérait aussi les arrivées de joueurs. On a aussi connu ça avec Rudy Garcia
à l'époque. Attends, ça c'est différent. Non, c'est différent. Je te donnais l'exemple de Jeannot Vert, parce que Jeannot Vert, en effet, c'était l'agent de Didier, mais il avait un accord avec la principauté de Monaco. Pour avec le club, avec Jean-Louis Campora, pour gérer.
Excuse-moi, ça te choque pas?
Mais ça peut être choquant, mais au moins c'est ouvert.
Tu es jugé partout.
Sauf que là,
t'es à la fois agent, coach.
Non, mais est-ce que Bordeaux a mandaté cet agent-là, l'agent de Paulo Sousa, pour aller voir Reims, Daniel? Est-ce que l'agent de Paulo Sousa, donc qui allait voir Reims, a été mandaté par Bordeaux ou il l'a fait comme ça?
Ah non, il a fait comme ça, il est allé voir Reims. Reims est tombé dans le panneau, hein. Oui, ils étaient tellement pressés éventuellement rater l'affaire, ils ont dit, oh, si c'est ça, on va te la filer, t'as quoi, hein.
Donc en fait, là, il y a un gros problème. Parce que ça peut arriver, mais c'est très clair. Moi, tout le monde le savait. L'histoire de Jeannot Vert, tout le monde savait que Jeannot, c'était lui qui gérait le truc pendant un an ou deux ans. Mais lui, en aucun cas, il doit se mêler à ça. Donc s'il s'est mêlé à ça, si c'est pour faciliter le transfert, t'imagines le reste. T'imagines les coms, t'imagines les comptes un petit peu cachés là, non? Tu imagines un petit peu le scénario?
Non, il
n'y
a pas de preuve de rien.
Non, mais il
n'y
a pas de preuve. Mais bon, on n'est pas trop cons. Hein,
c'est des suppositions.
Donc là, il l'a fait comme ça en disant ouais, t'en fais pas. Hein, t'as Oudin, surtout, il ne faut pas rater. Hein, donc je vais y aller parce que. quand même, attends. Il y a la justice de Turin qui veut venir.
Je crois qu'on a compris ce que tu voulais dire.
Non, mais c'est la vérité. Et je voulais juste finir. C'est vrai que j'ai repris Daniel tout à l'heure sur. Cissé, que moi je te disais Voilà. Alors déjà, il faut savoir que si c'est à Monaco, il y en avait deux.
Il y en avait deux. T'avais peut-être rencontré
d'autres. Non. Je l'ai vu aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un de très abordable comme ça. Mais par contre, à Monaco, s'il est parti, en effet, c'est qu'il s'est chopé avec Barry Larro. Mais il s'est chopé avec Barry Larro parce que il y a eu une histoire de com sur des jeunes qui ont signé au club.
Ah bon ? Ah bah
tiens, et là, donc voilà, et des dossiers comme ça, il y en a beaucoup. J'ai eu confirmation encore. Je croyais Daniel, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, sauf que moi, on m'avait dit des choses, mais surtout sur l'autre si c'est voilà, donc je voulais rectifier le tir.
45 minutes après, parce que genre,
la preuve, regarde,
on clôture le dossier Bordeaux. On continuera demain en parlant cette fois de l'aspect billetterie et organisation du club. Dans quelques instants, bien sûr, remercions Nicolas au 32-16. Dans quelques instants, on passe à l'actu du jour. José Anigo, Rabiot notamment au programme. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.